VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 28 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le chef et fondateur du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, a été tué dans un raid américain.
En Guinée, des centaines de ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest ont été interpellés ces derniers jours.
Au Mozambique, le président sortant, Philippe Nyusi, a remporté la présidentielle du 15 octobre.
En Algérie, les juges et les procureurs ont entamé hier une grève illimitée pour réclamer l'indépendance de la justice.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
L'actualité reste dominée par la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi, le leader du groupe État islamique que le président américain Donald Trump a annoncé hier matin dans une allocution télévisée à la Nation. Il a déclaré qu'une opération des forces spéciales américaines avait ciblé avec succès et, je cite, « éliminé violemment al-Baghdadi dans le nord-ouest de la Syrie ». La nuit dernière, a ajouté M. Trump, les États-Unis ont traduit en justice le leader terroriste numéro un du monde. Le président américain a expliqué que le leader djihadiste est mort après s'être fait exploser dans un tunnel, tuant en même temps trois de ses enfants. Le tunnel s'est effondré suite à cette explosion.
Aucun personnel américain n'a été perdu dans cette opération, mais un grand nombre des combattants d'al-Baghdadi ont été tués et d'autres capturés. Selon M. Trump, le leader du groupe État islamique qui se cachait dans le tunnel a tenté de fuir, gémissant, pleurant et criant. Il n'est pas mort comme un héros, il est mort comme un lâche, il est mort comme un chien, a encore dit le président Trump. Et les tests ADN réalisés sur place ont confirmé en 15 minutes qu'il s'agissait bien d'Abou Bakr al-Baghdadi, a souligné le chef de l'exécutif américain.
Ailleurs dans le monde, les réactions ne se sont pas fait attendre. Des détails avec Yacouba Ouédraogo.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi est une étape importante dans la lutte contre le terrorisme. Le président Emmanuel Macron a fait état d'un coup dur porté contre Daesh pour le premier ministre britannique Boris Johnson. Je cite, « La mort de Baghdadi est un moment important dans le combat contre la terreur. » Son homologue israélien Benjamin Netanyahou a félicité le président Trump pour cet accomplissement, ajoutant que cette réussite est une étape importante. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a parlé de tournant dans la guerre contre le terrorisme. L'Iran a affirmé que l'élimination d'Abou Bakr al-Baghdadi ne signifie pas la fin du combat contre l'organisation djihadiste. Moscou a déclaré ne pas avoir d'informations fiables sur une énième mort du chef du groupe État islamique, faisant état de détails contradictoires. Mazloum Abdi, commandant de ceux qui se font appeler Force démocratique syrienne, partenaire de Washington dans la lutte contre l'État islamique, dit s'attendre à une vengeance des cellules dormantes du groupe État islamique. Les forces kurdes en Syrie ont annoncé qu'elles vont s'éloigner de toute la frontière avec la Turquie en vertu d'un accord russo-turc pour mettre un terme à l'offensive d'Ankara dans le nord syrien.
Le porte-parole du groupe État islamique, Abu Hassan al-Muhajir, fait aussi partie des djihadistes tués dans un autre raid mené dans le nord de la province d'Alep, selon les FDS, dominés par les combattants kurdes en Syrie. Cette opération a été menée en coordination directe entre les renseignements des FDS et l'armée américaine, a indiqué le commandant en chef des FDS, Mazloum Abdi. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a confirmé ce qu'il a appelé une opération des forces américaines en coopération avec les forces démocratiques syriennes. Selon cette ONG, Abou Hassan al-Muhajir et quatre autres combattants du groupe État islamique ont été tués dans le raid aérien. Ils ont été pris pour cible alors qu'ils tentaient de fuir clandestinement avec d'autres combattants du groupe. Nous reviendrons sur la mort d'Abou Bakr al-Baghdadi en seconde partie de cette édition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée, des centaines de ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et la Gambie, ont été interpellés ces derniers jours. Conakry dénonce, je cite, « les infiltrations de corps étrangers », alors que le pays connaît une vague de manifestations contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. Mais cette affaire pourrait être liée aux pratiques controversées d'une société de vente directe, la multinationale QNET, basée à Hong Kong. Cette société, qui est bien implantée en Afrique, aurait attiré en Guinée des jeunes de plusieurs pays et leur aurait vendu des produits divers, à charge pour eux de les revendre à leur entourage.
Au Mozambique, le président sortant, Philippe Nyusi, a remporté la présidentielle du 15 octobre, selon les résultats officiels proclamés par la commission électorale. L'opposition dénonce des fraudes. Éric Manirakiza.
Le président sortant Philippe Nyusi du Frelimo a recueilli 73% des voix contre 22% attribués à son principal opposant, Ossoufo Momad de la RENAMO. La société civile, certaines missions d'observateurs ont dénoncé des irrégularités. L'ambassade des États-Unis a cité des divergences entre les listes électorales et le recensement démographique au sud et au centre du pays. La RENAMO avait appelé à la tenue de nouvelles élections, dénonçant des fraudes électorales massives et des opérations d'intimidation des électeurs. Vendredi, les corps criblés de balles de la dirigeante de la Ligue des femmes de la RENAMO et de son mari ont été retrouvés dans l'ouest du pays. Leur disparition avait été signalée à la veille du scrutin. 10 personnes ont été tuées depuis le début de la campagne électorale, selon la mission locale d'observateurs. Un accord de paix conclu en août entre le parti au pouvoir et la RENAMO était pourtant censé mettre un terme à leurs affrontements. Le 15 octobre dernier, les Mozambicains se sont rendus aux urnes pour élire aussi leurs députés et leurs assemblées provinciales.
En Algérie, les juges et les procureurs ont entamé hier une grève illimitée pour réclamer l'indépendance de la justice au moment où la commission électorale a annoncé que 22 candidats sont en lice pour la présidentielle. De nouveau, Éric Manirakiza.
Les magistrats dénoncent la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Selon eux, le gouvernement a violé les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature en affectant 3000 juges et procureurs, soit la moitié des effectifs des magistrats. De son côté, le ministère de la Justice soutient que les changements contestés ont été validés à l'unanimité par les membres du Conseil de la magistrature. D'après Saad Eddine Merzoug, porte-parole des magistrats, aucune audience ne s'est tenue hier dans presque toutes les juridictions. Les tribunaux, les cours, la Cour suprême et le Conseil d'État sont paralysés, selon M. Merzoug, qui a ajouté que cette grève pourrait avoir un impact sur la présidentielle du 12 décembre. Des juges sont chargés de superviser le fichier électoral, de recenser les résultats du scrutin dans chaque commune. 22 candidats, dont Ali Benfis et Abdelmadjid Tebboune, tous deux premiers ministres de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, sont en lice pour la présidentielle. La contestation refuse que l'élection soit organisée par le pouvoir en place, qu'elle accuse d'avoir soutenu les 20 ans de présidence de M. Bouteflika. Jeudi dernier, des centaines d'avocats ont manifesté à Alger pour l'indépendance de la justice.
En Irak, les écoliers et les étudiants ont rejoint hier les manifestations, accentuant ainsi la pression sur le gouvernement. Ce gouvernement fait face depuis près d'un mois à un mouvement de contestation inédit à Bagdad et dans le sud chiite. Les troubles ont fait jusqu'ici plus de 200 morts. Depuis samedi soir, le gouvernement est aussi engagé dans un bras de fer avec le principal bloc au Parlement qui a entamé un sit-in pour réclamer sa démission.
Ici aux États-Unis, 180 000 personnes ont été sommées d'évacuer plusieurs zones à cause du Kincaid Fire, l'incendie au nord de San Francisco. L'État de Californie a été placé en état d'urgence par son gouverneur, Yacuba Ouedraogo.
Selon l'agence des pompiers de Californie, Cal Fire, le feu a déjà brûlé plus de 12 000 hectares et n'est contenu qu'à 10 %. Hier, le shérif du comté de Sonoma a annoncé l'ordre d'évacuer plusieurs zones situées au nord de Santa Rosa. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, a décrété l'état d'urgence en raison des effets des vents sans précédent dans la région. Plusieurs centres d'hébergement d'urgence affichent complet. Santa Rosa a dû fermer l'un d'eux qui se trouvait dans la zone à évacuer. Une partie de l'autoroute principale qui traverse la ville a été coupée à la circulation. d'inondations. Le fournisseur d'électricité a coupé préventivement le courant à 940 000 foyers en raison des conditions météorologiques. La progression du feu est facilitée par un temps sec, un taux d'humidité très faible et un vent soutenu avec des rafales pouvant aller jusqu'à près de 130 km/h. 3000 soldats du feu ont été mobilisés pour combattre l'incendie qui a démarré mercredi. En novembre 2018, le Camp Fire, un autre incendie, a fait 86 morts dans le nord de la Californie.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Gabon veut construire un barrage hydroélectrique à partir du deuxième trimestre de l'année prochaine à 100 km de la capitale et dont la mise en service aura lieu en 2023. Le barrage fournira 13% de l'électricité consommée par Libreville, économisant 150 000 tonnes d'émissions de carbone par an. Les autorités veulent aussi débuter les travaux d'une route de 780 km pour relier la région minière du sud-est à Libreville. Le Niger, la Guinée et la République démocratique du Congo ont signé des accords avec une agence fondée par l'homme d'affaires russe Constantin Malofev. Ce dernier conseillera les trois pays sur les moyens de réunir plus de 2,5 milliards de dollars en vue de construire un oléoduc au Niger ainsi que des chemins de fer et de routes en Guinée et en RDC. Le Zimbabwe va couper l'électricité dans les mines, les fermes et d'autres utilisateurs pour récupérer 77 millions de dollars de factures impayées. Les défaillants devraient régler leurs dettes sans tarder pour éviter les désagréments liés au débranchement de l'électricité. La Chambre des mines, qui représente les grands producteurs d'or et de platine ainsi que d'autres mineurs, ne sera pas affectée par les déconnexions.
Les sports à présent avec Élisée Ungpatin. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer, mondial des moins de 17 ans et belle entame pour l'Afrique.
Oui, et en ouverture, le Nigeria dans la poule B s'est débarrassé de la Hongrie 4 buts à 2 dans le groupe A. L'Angola a battu la Nouvelle-Zélande 2-1 et puis hier dans le groupe D, le Sénégal a renversé largement les États-Unis 4-1. Le Cameroun, dernier pays africain en lice, fera ses débuts ce lundi face au Tadjikistan dans le groupe E.
Tour de cadrage aller de la Coupe de la Confédération, la dernière étape qualificative pour la phase de groupe.
Et les Égyptiens d'El Masri ont pris une grosse option sur la qualification en allant Gaïo Seychelles contre Côte d'Or 4-0. Bonne opération aussi pour les Zambiens de Zanaco. À Malabo contre Canox Sport 3-1. Des Maliens de Djoliba au Tchad contre Elexport 1-0. Et puis succès 2-1 de l'ASCK, le champion du Togo, face aux Nigériens de Nungu Rangers.
Le match à Santé Kotoko San Pedro a été arrêté à la pause à cause de la pluie.
Et le match va reprendre ce lundi pour les 45 dernières minutes avec un score inchangé de 0 but partout comme le veut le règlement. Pour le reste, les Malgaches de Fosa Junior ont dominé la Renaissance de Berkane 2-0. Même score pour le club nigérian d'Enimba contre les Sud-Africains du TS Galaxy. Le succès le plus large est à mettre au crédit des Guinéens de Oroya 4 buts à 2 face aux Kenyans de Bandari. A noter que le match entre les Sénégalais de Génération Foot et les Béninois de Zaïeux aura lieu à une date encore indéterminée.
Cyclisme avec le Tour du Faso et les coureurs ont parcouru la troisième étape entre Tinkodogo et Dapaong au Togo, longue de 145 km.
Oui, et la victoire d'étape est revenue au Rwandais Moïse Mujisha en 3h33 minutes 20 secondes. Il prend en même temps le maillot jaune de l'Angolais Bruno César do Amaral. Le point avec notre correspondant Kader Traoré sur les routes du Tour.
Le jeune Moïse Mujisha réalise le coup double en remportant la victoire lors de la troisième étape en Tinkodogo au Burkina et Dapaong au Togo, longue de 145 km. Il a parcouru la distance en 3h33 minutes 20 secondes. Il reprend par la même occasion le maillot jaune qui était sur les épaules de l'Angolais Bruno César do Amaral. La suite de la compétition s'annonce palpitante car le niveau de la course est très élevé. Le commissaire UCI du Tour, Laurent Bezo, entrevoit une farouche rivalité entre les Burkinabés, les Angolais et les Rwandais.
On a une qualité un peu supérieure. Ça ne va pas être simple pour nos coureurs burkinabés, mais voilà, c'est ce qui va donner aussi un peu de piment à la course.
Lundi, la caravane fera le retour au Burkina Faso. Ce sera pour le compte de la quatrième étape qui va se courir entre Bitou et Koupéla, longue de 101 1,8 km. Kader Traoré sur les routes du Tour pour VOA Afrique.
Rugby à présent avec la Coupe du Monde au Japon et l'Afrique du Sud décroche sa place en finale.
Oui, les Sud-Africains ont remporté hier leur demi-finale contre le pays de Galles 19-16 et affronteront l'Angleterre vainqueur de la Nouvelle-Zélande samedi prochain à Yokohama. Et puis, basketball pour finir, la NBA avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Surprenant, Golden State de nouveau massacré, cette fois-ci par Oklahoma City, 120 à 92. Memphis bat de justesse Brooklyn Nets, 134 à 133. De justesse aussi, Portland bat Dallas, 121 à 119. Minnesota a eu raison de Miami, 116 à 109. Et LA Lakers écrase Charlotte, 120 à 101.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le président Donald Trump a donc annoncé hier la mort d'Aboubakr al-Baghdadi, chef du groupe État islamique, lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Aboubakr al-Baghdadi est considéré comme responsable de multiples attentats dans plusieurs pays. Auparavant, à plusieurs reprises, Baghdadi avait été annoncé mort. A-t-il vraiment été tué cette fois-ci? C'est la question que Yacouba Ouedraogo a posée à Romain Caillé, chercheur et consultant sur les questions islamistes.
Auparavant, ce ne sont pas les Américains qui annonçaient sa mort, c'était la Russie ou certains pays arabes qui sont connus pour avoir peu de rigueur dans les informations et mélanger propagande et parfois de fausses informations pour déstabiliser l'adversaire. Dans le cas des États-Unis, c'est totalement différent. Là où on pouvait avoir un doute, c'est qu'auparavant, c'est que des sources anonymes qui confirmaient ça à la presse. Mais là, il y a Trump qui a quand même engagé la crédibilité, la responsabilité des États-Unis. Ça serait couvrir l'institution américaine de ridicule, et ça, je pense qu'il ne le ferait pas.
Les États-Unis ont annoncé avoir vaincu le groupe État islamique en mars dernier. Est-ce que cette fois-ci, on va dire, l'élimination de Baghdadi signifierait la fin du groupe État islamique?
Non, la fin du groupe État islamique en tant que groupe terroriste, certainement pas. Il va se reformer. Maintenant, l'État islamique en tant que puissance militaire, comme il a pu l'être à l'été 2014, ça paraît peu probable qu'il se reforme et qu'il revienne à ce niveau, à moins d'une déstabilisation majeur de la région, comme l'a été la révolution syrienne dans la lignée du printemps arabe.
On sait que les États-Unis ont pratiquement lâché entre griffes les Kurdes qui ont contribué à la lutte contre le groupe État islamique ces derniers temps. Alors, les Kurdes disent craindre des représailles de la part des cellules dormantes du groupe État islamique. Est-ce qu'il faut s'attendre véritablement à des représailles?
Quand vous dites les Kurdes, vous parlez PG, PKK? Oui, mais pas spécialement plus que les autres acteurs. L'État islamique, c'est en groupe avec tous les autres acteurs. D'ailleurs, Trump n'a pas spécialement mis en avant les Kurdes. Et il a remercié la Russie, la Syrie, l'Irak et la Turquie. Tous étaient en guerre contre l'État islamique et l'État islamique était en guerre contre tous. Donc effectivement, ils mèneront des opérations contre les PKK qui sont fragilisés après le retrait américain, mais pas spécialement contre eux plus que d'autres.
Qu'est-ce que l'élimination d'Aboubakr al-Baghdadi peut apporter dans la lutte contre le terrorisme en général dans le monde?
Au niveau de la lutte au jour le jour, d'un point de vue sécuritaire, ça change strictement rien. On prend l'exemple de la France. Certes, le principal attentat le plus meurtrier a été organisé, préparé depuis le territoire de l'État islamique, mais le second attentat le plus meurtrier, celui de Nice, c'est le cas d'un sympathisant de l'État islamique qui s'était radicalisé et qui avait répondu aux appels à commettre des attentats. Donc, là où ça va changer quelque chose, c'est que l'État islamique va peut-être avoir des difficultés pour faire accepter le successeur de Baghdadi auprès du public djihadiste. Ils ne sont pas dans une situation de force, donc il est peut-être probable qu'ils soient plus ou moins anonymes. Il ne serait pas acceptable pour réclamer l'allégeance de tous au calife. Donc c'est ça l'enjeu, c'est au fur et à mesure que les chefs djihadistes sont tués, il faut que le successeur s'inscrive dans un narratif qui ait une crédibilité auprès du public djihadiste, auquel cas ils perdent le soutien qu'ils ont de ces communautés.
Joint à Paris, Romain Caillé, chercheur et consultant sur les questions islamistes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a pu finalement se rendre à Goma après deux tentatives manquées. C'est samedi qu'il est arrivé dans la capitale du Nord Kivu pour y entamer une tournée dans l'est du pays. Lors d'un meeting à Goma, il a annoncé la création de son parti politique et promis de rester dans l'opposition. Reportage de Charlie Kasereka, notre correspondant sur place.
Des milliers de personnes sont venues l'attendre samedi à l'aéroport de Goma. Il a conduit la foule jusqu'au stade Afia où il a tenu un grand meeting s'adressant aux partisans en ces termes.
Nous avons manqué trois rendez-vous avec vous. Je suis étonné de voir beaucoup de gens venir m'accueillir et je sais que c'est vous le peuple, ma protection. Je ne suis pas un politicien opportuniste, je suis maintenant dans l'opposition. Chaque chose a son temps.
Moïse Katumbi a clamé sa détermination de rester dans l'opposition et a évoqué la création prochaine de son parti politique.
Nous sommes dans l'opposition exigeante. Nous sommes donc les arbitres et nous allons dénoncer tout ce qui ne marche pas bien ici au pays.
Un message bien capté par les partisans de celui qui désormais se reconnaît comme opposant. Denis Kanyere et Jean Bahati, tous des partisans de Katumbi.
Et nous allons continuer à les soutenir. Comme il dit qu'il va rester dans l'opposition, nous allons continuer à les soutenir. Et nous allons continuer à mettre des pressions pour des choses qui ne vont pas.
Il est venu ici à Goma pour nous montrer sa vision de former le parti politique. Et un parti politique qui n'est pas des opportunistes, mais qui ont la vision de ces pays. Nous allons toujours les soutenir.
À Goma, il a eu un week-end chargé. Après la messe, dimanche matin, Moïse Katumbi est allé s'incliner et déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de l'activiste Likulula, décédé le 10 juin de l'année passée.
Dans tout le pays, le combat doit continuer pour libérer le peuple congolais. Ce jeune est décédé, c'est parce qu'il aimait son pays. Et il y a des gens qui ne voulaient pas le changement. Donc nous devons nous tous être engagés, dénoncer tout le mal. Aussi longtemps que nous sommes vivants, nous devons réclamer la vraie justice.
Dès l'après-midi jusqu'à trop tard dans la nuit, il a échangé avec les membres de la société civile de Goma. Salandi, l'ancien gouverneur de Katanga, se rend à Beni et Butembo. Après le Nord Kivu, il se rendra dans la province voisine du Sud Kivu, à Bukavu. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Niger, les enlèvements perpétrés par des éléments présumés de la secte Boko Haram sont de plus en plus fréquents dans la région de Diffa et les populations sont très inquiètes. La semaine dernière, par exemple, un élu local et son épouse ont été enlevés et leur ravisseur exigerait une rançon de 100 millions de francs CFA pour leur libération. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon des responsables de la société civile régionale de Diffa, c'est le maire de la commune de Kabalewa, Abari El-Haj Daouda, qui a, à travers un appel téléphonique à ses parents, porté l'information de la rançon demandée par ses ravisseurs afin de le libérer, lui et son épouse, enlevés dans la nuit du 19 au 20 octobre dernier. Mara Mamadou, de l'association Alternative Espace Citoyen de Diffa.
À l'heure d'aujourd'hui, tout ce que nous savons, il est en vie. Et effectivement, il y a eu une demande de rançon qui a été annoncée.
Quel est le montant de cette rançon qui est demandée pour le libérer?
La rançon, selon effectivement les informations que nous avons collectées et vérifiées, donc selon les sources, effectivement, qui se trouvent un peu à Kabalewa et partout, donc il demanderait jusqu'à 100 000 CFA.
L'identité des ravisseurs n'est pas connue, mais ils auraient, selon des sources locales, pris la direction d'une zone où Boko Haram règne à maître. Il s'agit du sud-est de la commune de Kabalewa, pas très loin du village de Ngalewa, où en juillet 2017, une quarantaine de jeunes filles avaient été enlevées. Des enlèvements qui sont devenus récurrents, avec cependant ces derniers temps un changement de tactique. Mara Mamadou.
Jusqu'à fin 2018, vous comprendrez que les éléments de Boko Haram enlèvent des gens qui sont un peu têtus ou qui dénoncent leur pratique. Mais ça a évolué. Ils ont commencé à enlever des gens qui ont de l'argent ou bien des gens qui ont des parents qui sont susceptibles, effectivement, de leur procurer de l'argent. Mais aujourd'hui, vous comprendrez sans doute qu'après l'enlèvement d'un élu local à Chetmarie, puis effectivement un agent de l'État de l'agriculture à Chetmarie aussi, Chetmarie canton, il y a deux Chetmarie, aujourd'hui ça a évolué jusqu'à enlever un maire de la commune rurale. Ça veut dire que c'est le symbole de l'État, effectivement, qui est attaqué ici. Donc là, nous comprendrons évidemment que, au-delà de l'argent, c'est un coût vraiment qu'ils ont apporté.
Des statistiques de l'ONU font état de plus de 230 enlèvements dans la région de Diffa depuis le début de cette année 2019. Les défenseurs des droits humains condamnent l'attitude silencieuse des autorités nigériennes sur cette situation. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, c'est l'événement de mode le plus important depuis 10 ans sous l'impulsion de Bazem Cé, un célèbre styliste du pays. Folie de mode se tient à Ouagadougou. Cette année, une quinzaine de stylistes sont venus de toute l'Afrique pour prendre part à l'événement. Le défi aujourd'hui pour les créateurs africains, c'est de pouvoir imposer les produits locaux, notamment la transformation de la cotonnade, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
Pour les 10 ans de folie de mode, 16 stylistes venus du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger, du Bénin, de la France, bien évidemment du Burkina Faso, pour ne citer que ces pays, ont défilé. Les dernières collections 2019-2020 ont été présentées. Aujourd'hui, les politiques encouragent les stylistes africains à mettre en valeur les produits locaux.
Il y a une grande économie à développer autour de la cotonnade burkinabé, le Faso d'Afani.
Haruna Kabore est le ministre burkinabé du commerce.
Quand vous regardez tout ce qui a été fait ici, que ce soit des couturiers burkinabés ou des couturiers un peu venus partout d'Afrique, chacun a une petite touche quelque part où il la rajoute un peu du Faso d'Afrique, que ce soit sur la poche de la vie, que ce soit sur les manchettes d'une veste, que ce soit sur, je sais pas, le bout d'un pantalon, on retrouve un peu la cotonnade burkinabé. Ça fait plaisir. Le travail qui est fait pour mettre le fil à la disposition des gens, un peu aussi le magnifier pour permettre à des milliers de personnes de vivre.
Aujourd'hui, notre ambition, notre but, c'est que tous ces jeunes aujourd'hui portent ce qui vient de chez nous.
Le styliste Sébastien Bazemo, dit Bazem C, promoteur de folie de mode.
Le Faso d'Afani, le Coco d'Ondan, qu'aujourd'hui on n'est plus à aller acheter des produits venus d'ailleurs ou la fupérie, mais qu'on porte le coton burkinabé, le coton qui vient de chez nous. Donc il faut que ce soit accessible à tous. L'essentiel que je puisse vendre l'image de mon pays qui est l'image positive que je veux vendre et non l'image négative qu'on nous fait croire.
Les Africains doivent conquérir d'autres marchés. Soutien Alfadi, styliste venu du Niger.
Vendre au Burkinabé, vendre aux Africains, c'est important, mais vendre à l'Europe aussi, et aux Amériques aussi, le Faso d'Afani et d'autres matières. Une réunion comme ça doit amener beaucoup de choses, et la paix pour ce pays et la paix pour l'Afrique. Pour moi, c'est important, c'est extraordinaire.
Le Burkina Faso produit en moyenne 600 000 tonnes de coton par an. Seulement 2% de ce coton est transformé sur place. Selon le secrétariat permanent de suivi de la filière coton libéralisé, les créateurs veulent donc inverser cette tendance. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Hey there, hello.
VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.